Donc merci Seigneur pour sa grâce. Amen. Amen. La gloire du Seigneur, ben on la retrouve dans le moindre détail de nos vies. Hein? Dans la moindre des petites choses. Et des fois, nous-mêmes, quand on regarde nos vies, on voit la gloire de Dieu et puis on voit aussi les petites taches qui sont là, à droite, à gauche. Et on se dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes remplir ma vie, comme on l'a chanté, que cet esprit vienne et remplisse notre vie, de sorte que nous soyons des témoins fidèles. Des témoins fidèles de sa parole, des témoins fidèles de qui il est. Et c'est important de savoir ce que nous disons, c'est important de savoir ce que nous connaissons de Dieu. On vient les dimanches et on entend parler de Dieu, bien sûr. On vient les dimanches et on loue, on prie. Mais la parole de Dieu a aussi son importance dans les temps de la semaine, dans les moments qu'on passe devant Dieu, pour connaître plus cette parole, pour connaître plus ce qu'il a à nous dire et ce qu'il veut dire par notre bouche. Et la Bible dit, comment est-ce que... Sois toujours prompte à parler de la foi que tu as reçue. Sois toujours prompte à savoir parler de la foi que tu as reçue. Alors on a des frères et sœurs qui témoignent abondamment dans la rue, qui prennent du temps pour ça. Mais Christ nous a appelés à devenir des témoins pour une chose bien précise. C'est annoncer la vérité. Et le sujet que j'aimerais aborder ce matin, c'est justement notre relation au mensonge et à la vérité. C'est pas parce qu'on est chrétien que ça y est, il n'y a plus de mensonge dans notre vie, que ça y est, je suis parfait, que ça y est, je suis accompli, que tout dans ma vie tourne bien. Il y a des domaines dans lesquels le Seigneur doit agir, dans lesquels le Seigneur doit faire son œuvre. Et souvent, ces domaines-là rejoignent quelque part nos peurs. Quand on a des peurs dans la vie, ça devient des failles. Parce que notre vie de foi ne progresse et n'avance que dans la confiance en Dieu. Et la seule chose que Christ nous a demandé de faire, a demandé à ses disciples de faire, c'est « Ayez confiance en Dieu ». Et si on regarde bien toutes les situations, beaucoup de discours que Christ a donnés, dans la parole, que ce soit « ne craignez pas pour votre vie, ne servez pas de maître, etc., servez Dieu », tout ce qui nous conduit à nous éloigner de Dieu, c'est ce qui nous conduit par la peur à faire confiance en notre force, à nous-mêmes, à nous rabattre sur ce que nous sommes capables de faire, et par là même à déclarer que nous ne faisons pas confiance en Dieu. Et par là même, même si on ne le dit pas comme ça, même si on dit « Seigneur, je te loue », même si d'une manière ou d'une autre, on est d'accord avec le fait que oui, il faut faire confiance à Dieu. Quand on regarde, quand dans nos vies, on prend le temps de regarder quelles sont nos peurs, quelles sont nos craintes, on voit quelles sont les failles que l'ennemi peut utiliser dans nos vies pour nous faire manquer de confiance en Dieu. Parce que dans nos peurs et dans nos craintes, nous cherchons, d'une manière ou d'une autre, à nous rabattre sur ce que nous pouvons faire pour nous débattre, pour faire les choses par nous-mêmes. Le Proverbe 12, verset 17, nous dit « Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. » Christ nous a appelés à être des témoins, mais parfois, nous pourrions être un faux témoin. Est-ce qu'on est un vrai témoin ? Ou est-ce qu'on est un faux témoin? Donc on peut être un faux témoin ou on peut être un vrai témoin. La différence, c'est notre rapport à la vérité et au mensonge. C'est de quelle manière est-ce que nos vies prennent à cœur ou non la vérité ou le mensonge. Et on va détailler un peu, hein, mais ne vous inquiétez pas, on va aller un peu plus loin. Mais c'est quand même assez, je trouve que c'est quand même assez important parce que même si on est dans la foi, même si on est croyant, même si on est chrétien, on a parfois des défis, on a parfois des, des défis à surmonter, qui sont en fait plus des rapports à notre peur. Et je dis ça par exemple, je ne sais pas, une fois mon patron est venu me trouver. Il est venu me trouver et puis, voilà, il ne voulait pas être dérangé. Et puis il m'a dit une chose, on était tout seul dans la boîte, c'était le soir. Donc, il m'a dit une chose, il m'a dit, surtout si on appelle, je ne suis pas là. Et moi je lui ai dit, mais non, je ne peux pas dire ça, vous êtes là. D'accord ? En plus, je vous vois au travers de la vitre, vous êtes là. Alors, il était surpris. Il était surpris. Et je dois avouer que quand on a reçu un appel, c'était très tentant de dire, non, non, il n'est pas là. Et c'est un petit détail, ça paraît être un petit détail, mais quand il m'a dit ça, je me suis dit, sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Je me suis dit, mais est-ce que, bon, ok, je joue le jeu, bah non, il n'est pas là. C'est faux, je sais qu'il est là. C'est un détail, ça paraît pas important du tout, d'accord ? On est d'accord ? Que je dise qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ou qu'il soit, ça paraît pas important du tout. Mais moi, ce que je lui ai dit, c'est, je dirais pas que vous êtes pas là, mais je dirais que vous êtes occupé. Et que vous voulez pas être dérangé, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, je ne peux pas dire ça. Il était choqué. Il était choqué parce qu'il dit, bon, en général, voilà, vous dites que je ne suis pas là, je ne suis pas là. Il était choqué et en même temps, d'un autre côté, moi, ça m'a un peu gêné parce que je me dis, voilà, est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort de dire ça ? Est-ce que finalement, c'est pas si grave ? Mais au fond de moi, ça me gênait profondément de jouer ce jeu-là. Ça me gênait, ça peut ne pas gêner, ça peut pas être... Mais moi, ça me gênait au fond de moi de jouer ce jeu-là et de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, je dis pas que je suis parfait. À d'autres moments, j'ai pu me planter aussi en disant « Ouais, non, c'est bon, il est pas là parce que bon, c'était plus rapide, c'était plus simple, alors c'était pas vrai. Mais » Mais derrière ça, il y a un petit arrière-goût qui me dit « Mais quand même, ce que tu dis, c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est pas juste. » Alors, est-ce que c'est important ? A priori, ce n'est pas important. D'accord ? Ça ne va pas avoir d'impact sur ma vie de foi, ça ne va pas avoir d'impact comme ça. Et puis, d'un autre côté, si je dis quelque chose comme ça, que ça me met en désaccord avec mon patron, c'est quand même un problème parce que ça crée des conflits, ça crée des... Voilà, ce n'est pas forcément utile. Mais quand même, la question n'est pas de savoir si ce que je dis a de l'importance ou pas. La question est de savoir quel est mon rapport, quelle est ma relation avec la vérité. Quelle est ma relation avec ce qui est juste, ce qui est vrai, et ne pas faire passer quelque chose de faux comme une vérité. Ne pas faire passer un mensonge comme une vérité. Et on entend toutes sortes de choses sur le fait, je ne sais pas, d'être sage. Voilà, il faut être sage. Il ne faut pas donner le bâton pour être battu, d'accord ? Ça, c'est des expressions qu'on peut avoir. Donc, ne pas donner le bâton pour se faire battre. Bon, je suis chrétien, mais attention, je suis pas crétin. D'accord ? Donc, ces choses-là, moi, je les ai entendues depuis très longtemps. Et je dois avouer que depuis assez récemment, j'ai eu une réflexion sur ces points-là. À la suite de quelque chose en particulier qui s'est passé, que je vais raconter. Parce que c'est souvent qu'on se trouve des raisons pour de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas faire ce qui est juste. Soit parce qu'on ne veut pas choquer les autres, soit parce qu'on veut être accepté d'un groupe ou autre. Pour différentes raisons, la manière dont on aborde les situations dans nos vies, de manière basique, on veut être accepté. On ne veut pas se retrouver en conflit avec les uns et avec les autres. D'accord ? C'est clair ? Je pense que c'est le propre de chacun. On n'a pas envie de se retrouver en conflit. Mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'on se retrouve en conflit. La question est de savoir comment est-ce que je gère ces situations-là. Et le travail que Dieu nous demande, de manière basique, de manière élémentaire dans la Bible, c'est de ne pas être complice d'une situation de mensonge. De ne pas être complice d'une situation qui ne parle pas de la vérité, qui ne parle pas de ce qui est vrai. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Si on regarde autour de nous, on se dit « Waouh, je vais passer pour le pire des méchants » vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis de... Mais je ne sais pas si ça vous est... y a quelqu'un qui a témoigné de quelque chose, il y a une fille qui a témoigné de quelque chose, et ça m'a beaucoup troublé, ça m'a beaucoup choqué dans un camp de jeunes. Je ne sais pas si ça vous est, arrivé de vous retrouver dans ces situations-là où, allez, il y a très très longtemps peut-être, un professeur se reçoit une boule de papier, où il y a un élève qui dit quelque chose. Il se retourne dans la classe, et il dit « qui a dit ça ?» ou « qui a fait ça ?» Et là, personne ne dit rien. Personne ne dit mot. D'accord ? Mettez-vous dans cette situation, mettez-vous à cette place-là. Qu'est-ce qu'on fait ? On a vu qui a jeté la boule de papier, on a vu qui a fait la bêtise. Qu'est-ce qu'on fait ? Quel va être notre rapport avec la vérité par rapport à ça ? Et j'ai été très choqué parce que dans un camp de jeunes, il y a une fille qui doit avoir dans les 13-14 ans, je pense qu'elle doit avoir dans ces eaux-là, peut-être même 12 ans, je ne sais même pas, mais en tout cas jeune, avec une petite voix fluette, à peine on l'entend à peine, qui a tenu à témoigner devant tout le monde. Et quand elle a témoigné, tous les gens ont fait des petits sourires. Parce que ce qu'elle a témoigné, et c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance, qui est très, très forte dans ce qu'elle... qui est vraiment très très forte. Elle a des capacités, je pense, intellectuelles très, très 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 importantes, mais en même temps, elle a un rapport avec ce qui est juste, ce qui est vrai, quasiment naïf. Vraiment, elle était là, elle disait, moi je ne comprends pas, parce que dans ma classe, il y a des gens qui font des bêtises. Il y a des jeunes qui font des bêtises. Et moi, je suis là, je vois ce qui se passe. Et une fois, il y a eu une situation où la maîtresse, la prof s'est retournée, a demandé qui a fait ça, et personne n'a répondu. Alors du coup, elle est allée voir la directrice est venue, elle a demandé qui a fait ça. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai levé la main, et j'ai dit, c'était telle personne qui a fait ça. Et du coup, tous les gens me détestaient. Et je ne comprenais pas pourquoi. C'est juste, il faut dire ce qui est vrai. Et tous les gens se regardaient. Je disais, mais quand même, avec une petite pensée de dire, moi-même, je me disais, précisément, quand même, elle tend un peu le bâton pour se faire battre, quoi. Et dans ma tête, je me disais, est-ce qu'elle est en train de cafeter sur ses collègues de classe, mais elle va se faire massacrer. Et effectivement, les jeunes de sa classe ne l'aiment pas beaucoup parce qu'elle dit des choses qu'elle ne devrait pas dire. Quand les gens font des bêtises, Mais du coup, ils ont peur de ce qu'elle va dire. Mais du coup, ils craignent et ils font moins de bêtises. Ils font moins de... Voilà. Ils font plus attention. Et moi, ça m'a parlé parce qu'en plus, j'étais sur ma chaise et j'ai dit, j'ai complètement tort dans ma manière de voir les choses. Parce que dans ma tête, ça réfléchissait, je réfléchissais, je me disais, faut être sage quand même. Faut être solidaire avec les autres. Faut être, faut pas faire n'importe quoi. Dans ma tête, intellectuellement, j'étais là, je pensais à ça. Et dans mon cœur, je disais, mais j'ai tort. J'ai tort. Et alors, il y a un frère qui savait pas trop quoi faire quand il disait, ouais, tu sais, finalement, celui qui a acheté la boulette, ça aurait pu être moi. Parce que lui-même, il était un peu gêné. Mais j'étais sur ma chaise et je bouillais intérieurement et je me disais, c'est pas vrai, j'ai tort. J'ai tort dans ma manière de voir les choses, j'ai tort dans mon rapport à la vérité, j'ai tort dans ce que je considère être sage, juste, vrai, parce que quand je fais ça, je vis avec mes peurs. Quand je fais ça, j'ai peur de ce que les autres diront. Quand je pense comme ça, j'ai peur de ce que les autres pourront dire, mais je ne suis pas attaché à ce qui est vrai, à ce qui est juste. Et alors, en plus, le frère qui ne savait pas trop quoi... Voilà, qu'il savait pas trop quoi faire, mais du coup, pile moi, et j'étais tout au fond, il m'a dit, Jean-Philippe, tu peux venir prier pour ça ? Et je lui ai dit, j'arrive ! Et je suis allé, j'ai prié, et je pense que je n'ai pas prié comme les gens voulaient que je prie, parce que j'ai dit, tu bénis cette sœur parce qu'elle est juste. Tu bénis cette sœur parce qu'elle fait ce qui est juste à tes yeux, et c'est nous qui avons tort. C'est moi qui ai tort en pensant que ça peut être sage. Et ça m'a beaucoup troublé, et les jours qui sont passés, je me suis dit, faut qu'on parle de ça. Faut qu'on parle de ces situations où on pense qu'on est sage, où on pense qu'on est que c'est de la bonne voilà, c'est voilà, il faut pas trop en faire, mais où en même temps, ouais.
Je vais demander pour le jeune qui vient pas devant la classe,
oui,
mais vient voir le prof pour lui dire qu'il a fait. C'est la vérité. C'est quoi alors?
C'est la vérité, mais en tout cas, moi, ce que je là, il l'a pas fait, elle l'a pas fait derrière le dos du professeur. Elle a fait devant toute la classe, mais de manière très naïve.
Le jeune qui sait qui a fait, j'avais dit,
oui,
vient dire au prof qu'il a fait pas devant la classe. Parce qu'il y a des jeunes comme ça, hein, qui savent,
oui,
qui a fait la bêtise, mais qui vient après dire au prof.
Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne suis pas en train de faire une théorie. Alors, je ne suis pas en train de faire une théorie si dans une classe, c'est un exemple, d'accord? Si dans une classe, il faut aller voir le prof. Mais ce qui m'intéresse derrière, c'est la manière dont on se fait des normes. La manière dont on pense que certaines choses sont justes alors qu'elles ne le sont pas. La manière dont on s'enferme dans une bien-pensance de comment est-ce que la chose doit être gérée, parce que en fait, au fond de nous, on gère cette situation par rapport à une peur, par rapport à une crainte du regard de l'autre, par rapport à quelque chose qui a... Alors après, la manière dont ça se passe, si c'est la personne qui... ça peut être cette situation, mais ça peut être d'autres situations. Mais ce qui m'intéresse dans cette réflexion de ce matin, c'est comment est-ce que nos vies sont attachées à la vérité. Parce que des fois, on réfléchit et on pense et on se dit, si je fais ça, ce sera sage de faire ça de telle et telle manière. Mais par nos peurs, parce que notre réflexion découle de nos peurs, découle de nos craintes, en fait, on cache la vérité qui pourrait être une source de salut pour d'autres. On cache la vérité qui peut faire de nous un témoin vis-à-vis des autres, un témoin de lumière. Et c'est là-dessus dont on peut parler. Parce que la Bible nous appelle à être des témoins de lumière. De la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu, ça on l'a dit la semaine dernière. Mais louer Dieu, ce n'est pas dire seulement, par exemple, qu'il est grand. Ce n'est pas juste dire, c'est pas une formule magique, mais c'est confesser, c'est professer une vérité qui fait sens dans nos cœurs. C'est dire quelque chose qui dans nos cœurs trouve de la profondeur. Et Romains chapitre 14, verset 22-23 nous dit « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Et c'est ce passage qui dit plus loin « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Et des fois, on peut avoir ces réflexions-là, comme ça, où au fond de nous, on sait ce qui est juste. On sait ce qui est vrai. On sait ce qui a du sens. Mais on ne va pas dans le même sens. Est-ce que vous me suivez un peu dans notre réflexion? On ne va pas dans le même sens alors qu'au fond de nous, on sait ce qui est juste. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, on peut être là à raisonner, à dire « Mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est maintenant que je dois faire ça? Est-ce que c'est maintenant que je dois en parler ?» Alors qu'au fond de nous, quand on explore la vérité dans nos cœurs, on sait ce qui est juste, on sait ce qui est vrai et on sait comment agir. Alors le passage de ce Romain, le contexte, c'est les aliments. Donc c'est pas trop notre sujet, c'est-à-dire que c'était sur un sujet des aliments, mais ça nous donne de percevoir une vérité profonde. C'est que Dieu, il s'attache pas uniquement à ce qu'on dit, uniquement à ce qu'on fait, il s'attache à la cohérence de nos vies profondément. De quelle manière est-ce que nous sommes cohérents avec le message que nous donnons? Le fait que nous sommes témoins, que nous sommes appelés à être témoins, fait de nos vies des vies qui sont menacées parce que la vérité ne veut pas se faire entendre de la plupart des gens qui sont autour de nous, de ce qui se produit. Et c'est pas ce qu'on fait qui a toute l'importance, c'est d'abord la motivation qu'il y a derrière. Et dont découle ce que l'on fait. Voyez ce que je veux dire? Ce dont je suis en train de parler, c'est pas uniquement la manière dont je suis chrétien, c'est ce qui fait de moi un chrétien. C'est ce qui, dans mon cœur, dans la profondeur de ma vie, fait pousser en moi des élans de cœur, fait pousser en moi des réactions, fait pousser en moi des attitudes qui disent que je suis chrétien et qui peut-être, dans ma vie, peuvent me causer du tort. Quand on est croyant, des fois, la bien-pensance voudrait qu'on soit bien, ami et gentil avec tout le monde. Et on veut des fois essayer d'arranger des situations avec en fait nos peurs, avec en fait notre chair. Alors que des fois, des situations de vérité mettent à l'épreuve nos vies parce que les ténèbres ne veulent pas entendre parler de vérité. Parce que le diable ne veut pas, parce que les gens qui sont autour de nous ne veulent pas entendre parler de vérité, et parce que quand les gens font des choses qui ne sont pas en accord avec ce qui est juste et avec ce qui est vrai, et bien tout simplement, ils font comme ce que beaucoup d'entre nous on a déjà fait et que des fois on peut retomber là-dedans, on cache le péché. On cache le péché. On cache ce qui n'est pas juste. On cache ce qui n'est pas vrai. L'une des choses que Dieu nous demande de laisser derrière nous, c'est notre propre définition de la justice. Je pense que c'est juste, je pense que ce n'est pas juste. Tout simplement parce qu'elle passe la plupart du temps par la satisfaction de nos intérêts, plus que de la vérité. Et notre rapport à l'Évangile, notre rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas un rapport dans lequel on dit ce que l'on pense. C'est le rapport dans lequel on reçoit ce que la parole de Dieu a à nous donner. On reçoit la vérité que la parole de Dieu a à nous dire. Par la vérité, le mal est mis en lumière. Par la vérité, les ténèbres sont mis en lumière. Et comme dit la Bible, les ténèbres ne l'ont pas connue, la lumière. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas connue. Ce n'est pas parce que les ténèbres ont une quelconque force, mais c'est parce que les ténèbres existent par l'absence de lumière. Le mensonge existe par l'absence de vérité. Le péché existe par l'absence de Dieu. Notre rapport à la vérité détermine notre rapport au mensonge. Notre tolérance au mensonge détermine notre rapport à la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est complètement abstrait et c'est... Je trouve que c'est important parce que quand on parle de la vérité, quand on parle des choses qu'on a reçues de Dieu et qui sont juste devant Dieu, je ne dis pas qu'ils sont juste devant nous, mais qu'on sait être juste devant Dieu, notre vie devient les témoins. Et Christ nous a appelés à devenir les témoins. Et qu'est-ce qu'il a dit quand vous deviendrez des témoins? Quand on deviendra des témoins, alors, ne vous étonnez pas, vous serez persécutés en mon nom. La persécution dont parle Jésus, ce n'est pas juste le fait de, tiens, on trouve des désaccords. C'est le fait qu'on fait tâche complètement avec les normes qu'il y a autour de nous. C'est le fait que ce que l'on dit va à contre-courant de la bonne manière de penser selon ce monde. C'est le fait que quand on parle, on dit des choses qui ne sont pas dans lesquelles les gens autour de nous ne seront pas d'accord. Dire, mais pourquoi tu dis ça? Alors il ne s'agit pas de crier la vérité de quelqu'un en particulier. Mais je parle vraiment de situations dans lesquelles le mensonge s'établit, ne serait-ce que dans un groupe, par des rumeurs, et on rencontre ça des fois même à l'église. Si je parle des rumeurs, justement, je parle des rumeurs, il s'agit d'une histoire. Quelqu'un sait que cette histoire est fausse, mais va dire, attends, on va voir un peu où ça mène. Quand on sait que quelque chose est faux, il faut stopper de suite avec ce mensonge. Il faut être en mesure de stopper avec ce mensonge. Mais des fois, notre pensée, c'est, mais qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va dire si je fais ça, si je fais ça de telle et telle manière? Et moi, j'ai eu des rapports avec des collègues de travail qui, des fois, n'étaient pas toujours simples parce que dans le cadre du travail, on ne parle pas de Dieu. On ne parle pas de... En général, voilà, il ne faut pas faire de prosélytisme, on nous dit tout ça. Mais en même temps, quand on commence à parler de Dieu, qui peut nous empêcher? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Mais je sais que pendant un bon moment, dans le cadre de mon travail, c'était difficile parce que je me disais, mais je ne parle pas de Dieu. Et puis, une situation s'est produite où il y a une femme, qui est venue, une collègue de travail qui est venue me parler de ses difficultés, de ci, de là. Et là, la situation a été claire. J'ai dit, mais tu sais quoi? Moi, je vais te dire, je suis croyant et je crois que tu as besoin de Dieu. Je crois que tu as besoin de penser un peu, est-ce que Dieu ne peut pas venir à ton aide par rapport à ça? C'était choquant, c'était un petit peu troublant, mais je ne me suis pas retrouvé devant une personne qui m'a dit, non, attends, tu dis n'importe quoi. Elle me dit, ah, c'est intéressant. J'étais choqué parce que moi, dans mes peurs et dans mes craintes, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'il va... Tout un tas de choses. Mais on se rend compte que quand on parle vrai, quand on dit les choses qui viennent, quand on est des témoins de la vérité, ça ne se passe pas forcément comme ça. Et quand on commence à être... Un jour, un collègue de travail m'envoyait des emails, et des emails un peu sulfureux. Et il était en face de moi, j'ai laissé passer un peu. Juste un peu. Je me suis dit, on va voir, il a fait ça une fois, il ne va pas le faire une deuxième fois. Et il a continué à le faire. Il était juste en face de moi sur le plan de travail. Donc à un moment donné, j'ai dit, écoute... Tu arrêtes avec ces mails parce que je suis pas de cette partie-là. J'aime pas ces mails, c'est pas normal, c'est pas bien, c'est vulgaire, c'est obscène. Donc s'il te plaît, mais enfin je le dis comme ça, mais je le dis plutôt gentiment quand même. J'ai dit s'il te plaît, tu arrêtes avec ça. Et il a dit d'accord. Il a arrêté avec ça et je me suis retrouvé en fait avec quelqu'un qui avait plus de respect pour moi et qui faisait plus attention à la manière. Donc la manière dont je lui ai renvoyé, dont j'ai réagi par rapport à cette situation, a fait que sa vie a changé. A fait que la manière dont lui a fait les choses, il faisait un peu plus attention. Peut-être qu'il en envoyait à d'autres, je ne sais même pas. Mais en tout cas, il a fait un peu plus attention et ça l'a repris dans sa vie. Et ça l'a repris dans sa vie. Et il se peut que quand on se retrouve dans des situations comme ça, on se retrouve face à de l'incompréhension. Des gens qui disent « mais tu es fou, tu es dingue, tu... mais pourquoi pas ?» Pourquoi pas? Quand la vérité vient, quand la lumière vient quelque part, vous savez, si vous mettez de la lumière dans un endroit où il y a plein de rats, d'un coup, vous voyez plein de rats qui partent de partout. C'est clair, mais au bout d'un moment, là, ça devient un petit peu plus net. Ça devient un petit peu plus clair. Il faut ce temps, des fois, où la réaction peut être des fois violente, peut être médisante, mais notre rapport à la vérité est un rapport de justice, dans lequel peut-être la conscience du pécheur peut être interpellée. La conscience de celui qui fait quelque chose qui n'est pas juste peut être interpellée. Et nous, notre rapport à la vérité, il ne s'agit pas de faire, de dire et de faire voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire, mais voilà ce qui est juste et ce qui est injuste. Parce que, vous savez, même les droits de l'homme, tout ça, sont fondés, d'une manière ou d'une autre, sur les droits qui sont cités dans la Bible. Et ça, on s'étonne, parce que la Bible, elle est sage dans la manière dont elle dit les choses. Mais de plus en plus, au plus les choses vont, au plus les gens se disent « Non, mais tout ça, ce sont des limites dans lesquelles je ne veux pas tenir, et je veux m'affranchir de toutes les limites. Pourtant, on vit toujours sur terre, et si je prends quelque chose, il va toujours tomber par terre. Ça, c'est ma limite, je ne vis pas en apesanteur. » On a toujours des limites d'une manière ou d'une autre. À vivre. Que ce soit les gens qui disent ne pas vouloir vivre de limites, ne pas vouloir être critiqués ou jugés, comme les gens qui espèrent vivre de manière sainte. La Bible, dans Romains 10, verset 14, nous dit « Comment entendront-ils parler donc, de Jésus s'il n'y a personne qui prêche ? S'il n'y a personne qui parle ?» Et je crois que dans ce monde qui s'est de plus en plus laïcisé, nous aussi on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait, de sorte que ça devient tellement une réflexion qu'on finit par ne plus réfléchir par rapport à ce qui est juste et à ce qui est vrai. Et que la parole que Dieu a mis en nous, la parole de liberté, la parole de vérité que Dieu a placée en nous, par laquelle nous l'avons rencontrée, par laquelle nous avons connu ce qui est vrai, ce qui est juste, par laquelle nous sommes mis un jour à genoux en disant « Seigneur, tu es roi, Seigneur, je reconnais que tu fais toutes choses. Mais ce moment-là, dans nos vies, le moment où je me suis mis à genoux, le moment où j'ai reconnu que Jésus est Seigneur, c'est aussi ce moment où j'ai reconnu que j'étais pécheur. C'est aussi ce moment où, dans mon être intérieur, j'ai vécu le fait que je suis sale. Je suis sale. Et ma référence par rapport à ça, c'était la vérité. Notre référence par rapport au fait de savoir si nous sommes justes ou injustes devant Dieu, ce n'est pas ce que nous pensons, c'est la vérité qui est donnée dans la parole de Dieu. C'est la vérité qui nous donne une bonne conscience devant Dieu. D'accord ? Ce n'est pas le fait que je pense que c'est juste ou injuste. Mais si lorsqu'une parole doit être dite, si lorsqu'une parole doit être donnée, je la retiens pour moi, peut-être pour diverses raisons, alors peut-être je fais ce qui est injuste. Alors peut-être je me fais complice du mensonge. Et je vous ai déjà raconté une fois comment, alors ça c'est encore, comment ma sœur un jour, on était sur un parking de supermarché, donc certains connaissent peut-être d'autres pas, on était sur un parking de supermarché, et dans la voiture, on allait partir, et ma sœur, elle me dit, attends, cet homme là-bas, je sens que Dieu me dit d'aller lui dire qu'il l'aime. Je dis, bah vas-y, ok, ça va. Et elle y va, et elle va, elle lui dit, mais écoutez monsieur, Jésus vous aime, et il veut vous pardonner. Et l'homme, il se met en colère, et il dit, oh mais j'en ai marre de ces gens qui viennent me dire que Jésus m'aime, j'en ai marre. Et ma sœur, elle s'est mise à pleurer, elle est partie en courant, elle est arrivée dans la voiture, elle dit, tu comprends Jean-Philippe, il s'en est pris contre moi, il s'en est pris. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est? Il m'a dit, voilà. Donc elle me raconte ce qui s'est passé, parce que moi j'étais un peu loin. Et j'ai dit, mais arrête, mais réjouis-toi, parce qu'en fait, là, ce que cette personne est en train de te dire, c'est que Dieu est en train de le travailler. Dieu est en train de lui dire la vérité, mais il ne voulait pas l'entendre. Et ça, c'est la différence. C'est que la vérité, des gens autour de nous ne veulent pas l'entendre. C'est pas parce que des gens ne veulent pas entendre la vérité que nous ne devons pas leur parler avec vérité, que nous ne devons pas donner la vérité. Et c'est pas parce que nous risquons d'être persécutés, je ne sais quoi, parce que nous disons la vérité, que nous devons nous abstenir de dire cette vérité. Voyez la différence ? Parce que la vérité peut changer et peut transformer ceux qui sont en face de nous. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'accepter. Ça ne veut pas dire, et la Bible nous dit clairement que celui qui veut être témoin de Christ sera persécuté. Et la persécution, ce n'est pas uniquement le fait de « oh là là, j'ai mal au dos » ou « oh là 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 ». C'est le fait qu'on ressent de manière peut-être physique ou de manière morale ou de manière psychologique, je ne sais pas, on ressent l'effet de la vérité sur ceux qui sont en face de nous. Mais cette vérité a besoin d'être dite. Cette vérité a besoin d'être donnée. Et cette jeune m'a beaucoup impressionné parce qu'elle disait les choses simplement j'étais étonné en fait de voir dans la salle, tout le monde se regardait un peu avec des yeux de faïence en disant mais quand même, et au fond de moi, l'esprit criait, elle a raison. Au fond de moi, je me suis dit, mais elle est un témoin de vérité. Combien de fois j'ai empêché la vérité de sortir de ma bouche ? Il ne s'agit pas de tout déballer, tout ça, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être juste par rapport à ce que Dieu veut, d'être un témoin de la justice, d'être un témoin de la vérité. C'est pas simple. C'est pas simple. Parce qu'on est en face de nous avec beaucoup de choses dans nos propres vies qui fait que des fois on peut être bloqué, des fois on peut se sentir. Mais c'est un cheminement dans lequel on doit être conscient qu'on doit avancer dans ce sens-là. Il faut être conscient qu'on doit pouvoir avancer dans ce rapport à la vérité dans ce sens-là. Parce que c'est la manière dont Dieu est honoré et la manière dont il travaille. Il ne travaille pas de sorte que nos chemins, que nos voies, que les situations qui soient autour de nous soient favorables. Des fois, on peut venir et revenir même d'évangélisation en disant « Waouh, c'était formidable, Dieu a ouvert les portes parce que j'ai pu parler avec telle personne, j'ai pu faire ci, j'ai parlé et vraiment toute la personne était disposée. » Gloire à Dieu. Mais la situation où on parle à quelqu'un et la personne n'est pas du tout disposée à entendre ça, est-ce que c'est un échec lorsqu'on dit ce qui est vrai et lorsqu'il est juste? Et la Bible dit, ma parole ne revient pas à moi sans faire son effet. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans faire son effet, sans produire son effet. C'est pas pour rien que lorsque Christ parle, lorsque Jésus parle dans les Béatitudes et dans plusieurs passages de la Bible, dans les Marc, Matthieu, Luc, on retrouve ça, où il est dit « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi, « Vous êtes la lumière du monde » ? Ça veut dire que les gens vont remarquer que nous sommes là. Ça veut dire que les gens, en tant que croyants, vont faire attention à cette lumière-là. Et que cette lumière-là éclaire les zones de ténèbres de la vie de ceux qui sont autour d'eux, autour d'elle. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est-à-dire, là, il y a une question de bon sens. Si je suis une lumière, ce n'est pas pour me cacher. Ce n'est pas pour cacher le message que j'ai reçu. Ce n'est pas pour cacher la vérité. Ça n'a pas de sens. Christ parle des disciples, Christ parle des croyants comme étant le sel de la terre, c'est-à-dire celui qui donne du goût, celui qui sale. Si le sel n'a pas de goût, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, ça ne sert à rien. On le jette par terre, ça ne sert à rien du tout. Mais d'une manière ou d'une autre, quand on a du goût, on change ce qui se passe autour de nous, mais on ne se rend pas forcément compte de ça. On ne se rend pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir jusqu'à peut-être un certain moment. Mais on ne se rend pas compte de quelle manière est-ce que des gens en face, qui sont en face de nous reçoivent ce qu'on dit. Peut-être des fois en disant « Non, mais attends, t'exagères là, hein, t'es dans ton truc, t'es un peu religieux ou t'es un peu… Non, attends, je suis pas là-dedans. » Ou alors « Attends, t'es quoi? T'es un traître? T'es autre chose ?» Et des fois, il ne s'agit pas de parler de traître ou je ne suis pas en train de faire une théorie là-dessus. Mais je parle de comment est-ce que consciemment nous sommes attachés à la vérité. Comment est-ce que, d'une manière ou d'une autre, lorsque le mensonge se présente à notre porte, ça nous dérange ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu subtil, c'est un peu délicat, parce que je ne veux pas faire de chacun d'entre nous des personnes qui vont dire d'un coup tout un tas de choses, ça ne va pas par rapport à telle personne. Et des fois, il s'agit aussi des fois d'aller voir la personne en elle-même. Il ne s'agit pas. Mais lorsque la vérité, lorsque le mensonge qui se communique devient une plaie pour un groupe dans une situation où il y a besoin que la vérité éclate, là, il faut savoir être courageux. Là, il faut savoir être vrai. Et bien sûr, ça veut dire, des fois, que les ténèbres qui ne sont pas contentes, que le mensonge qui n'est pas content, bien lui, nous mène la vie dure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de se satisfaire, de dire « Oui, bon, il faut quand même prendre un peu de recul par rapport à ça, voilà, par rapport aux situations, tout ça. » Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis interrogé, sur mon rapport à la vérité. Sur mon rapport à ce qui est juste, ce qui est vrai devant Dieu. Et simplement, de manière très simple, je me suis rendu compte simplement que des fois, mes propres réflexions pouvaient être un obstacle à l'œuvre de Dieu. Pouvaient être un obstacle à ce que Dieu fait. Parce que je réfléchis aux conséquences de ce que je vais dire. Parce que je réfléchis à préserver ma vie des critiques, des médisances, de ce qu'il peut y avoir autour de moi. Alors que je pense aujourd'hui, et je sais que c'est pas quelque chose de simple, je pense aujourd'hui que quand Christ et quand Dieu parlent d'être la lumière, que la lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas connue, c'est le rôle que nous avons, vu que Christ a dit que vous êtes la lumière du monde, c'est ce rôle-là que nous avons. Et j'ai souvent pensé, vous savez, lorsque des chrétiens ont été persécutés, mais persécutés je veux dire, dans des arènes où ils ont été crucifiés, où ils ont été brûlés, où ils ont été donnés aux lions dans des temps anciens. Des fois, je me suis interrogé, je me suis dit, ces gens-là, il suffit de dire, mais je ne crois pas en Dieu. Il suffit de dire, mais ces gens-là sont attachés à la vérité et ils vivent jusqu'au bout cette vérité à laquelle ils croient. Et des fois, je me suis dit, mais si moi, j'étais dans cette situation, si j'étais envoyé en Corée du Nord, par exemple, où il est interdit de parler de Dieu, et où, sans doute à droite ou à gauche, je craindrais parce que des gens ne sachent que je suis chrétien, parce que je risque d'aller dans des goulags, ou je risque de mourir pour ça, quelle serait ma réaction face à la vérité ? Ça, ce sont des cas extrêmes, d'accord ? Ça, ce sont des cas extrêmes. Mais les cas les plus simples, on les retrouve autour de nous. Dans les situations où notre bouche doit parler d'une certaine manière, notre corps, notre cœur doit être en accord, doit être cohérent avec la vie de vérité que nous avons reçue. Mais nous craignons pour nos vies. Mais nous craignons pour ce qui peut se passer. Et des fois, la crainte, et comme je l'ai déjà mentionné, la crainte, c'est vraiment la plaie, je crois vraiment, de la foi. C'est la plaie de la foi parce que c'est dans la crainte que nous dévions de la confiance en Dieu. Lorsque nous faisons ce qui est juste, lorsque nous faisons ce qui nous semble juste aux yeux de la parole, ça va de pair avec le fait de faire confiance à Dieu pour ce que nos vies peuvent être, peuvent représenter, pour l'avenir qu'il peut y avoir, pour la manière dont Dieu va pourvoir à nos besoins. Parce que quand on parle avec vérité, eh ben, le monde veut éteindre, les gens autour de nous veulent éteindre notre lampe, veulent éteindre la manière dont on parle. Et c'est pour ça que quand on parle de persécution, ce n'est pas juste vivre des souffrances, mais c'est accepter de souffrir par amour pour la vérité. Accepter de souffrir pour ce qui est juste et pour ce qui est vrai. Et savoir parler quand il le faut, hein, être sage ou attendre les bonnes occasions. Je crois que c'est plus sage de parler avec vérité et avec amour quand un mensonge se manifeste. Et je dis bien vérité et amour. Parce que c'est facile aussi de dire je dis la vérité, mais j'accuse quelqu'un. Une vérité sans amour est une œuvre de destruction. Dire la vérité sans le faire de manière bien intentionnée est une œuvre de destruction. Et des fois, on peut dire « Ah, mais j'ai dit la vérité, je souffre pour ça ». Et c'est aussi une manière sur laquelle on peut souffrir inutilement. Un peu comme Moïse qui a été contre le rocher et qui était messager de Dieu, d'accord ? Et c'est aussi notre rôle, messager de Dieu, c'est-à-dire dire en tant que messager ce que Dieu a à dire, s'est mis en colère contre le peuple. Et Dieu lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Je ne me suis pas mis en colère contre eux. Tu as dit de frapper le rocher. » Et lui, Moïse a frappé le rocher deux fois. Deux fois, c'est l'insistance. Et il a frappé le rocher deux fois et il s'est mis en colère contre le peuple. Et Dieu lui dit, mais à cause de ça, tu n'iras pas avec eux. À cause de ça, tu regarderas ça au loin. Parce que tu as été un mauvais messager. Alors, on parle de Moïse là. Hein. On parle de quelqu'un qui parlait avec Dieu. Et quand la Bible parle de faire de nos vies des témoins, elle parle de cette vie dans laquelle nous cherchons à faire ce qui plaît à Dieu. Mais nous cherchons aussi à recevoir de Dieu la miséricorde, la passion, l'amour qu'il ressent pour le peuple pour lequel il veut parler. Des fois, quand on parle des amis, titre d'exemple, avoir parlé à un ami, c'est pas juste lui donner des belles paroles, c'est aussi dire ce qui est vrai. N'est-ce pas? Quand on parle à un ami, et moi ça m'est déjà arrivé de parler à un ami et de lui dire « je ne suis pas d'accord avec toi, ce que tu fais, ce n'est pas juste. » Et après, il ne voulait plus me parler. Ça peut arriver. Les conséquences, elles peuvent être là. Mais quand on s'adresse à quelqu'un avec l'amour qu'on a reçu pour cette personne-là, et ça, c'est le base, c'est le fondement de ce que l'on peut dire. Est-ce que j'ai reçu de l'amour pour cette personne-là? Est-ce que ce que je le fais par amour à l'égard de cette personne? Ou est-ce que je veux me venger ou autre chose? Il y a différents types de choses. Mais quand on parle à un ami et qu'on parle avec un amour, même ce qui est dur, peut être mal reçu, peut être mal vécu. Mais quand il réalise que peut-être on avait raison, eh bien, il revient vers nous. Avec d'autant plus de confiance, et ça m'est arrivé moi, avec d'autant plus de confiance, ça m'est arrivé qu'un ami me téléphone des années après et me dire, tu sais, je réalise que tu avais raison quand tu m'as dit ça. J'avais besoin d'être secoué, et j'avais pas envie. Et finalement, tous ceux que j'ai écoutés, en fait, ils m'ont donné des mauvais conseils. Et du coup, ça a gagné de la confiance. La vérité. La vérité, on le conçoit avec des amis, mais on le conçoit des fois pas avec d'autres personnes. Donner sa vie pour son prochain, c'est pas juste perdre la vie. Hein? Donner sa vie pour son prochain, c'est savoir se mettre de côté. Savoir mettre nos intérêts de côté pour servir les intérêts de l'autre. Amen. Savoir mettre de côté sa vie pour servir les intérêts de l'autre. Donner sa vie pour son prochain. D'accord? Parce que la Bible dit que même celui qui donne sa vie pour son prochain, s'il n'a pas l'amour, ça ne sert à rien du tout. D'accord? On peut faire des choses et croire qu'on est juste et croire qu'on les fait bien, mais sans l'amour, ça ne vaut rien. Sans la motivation qu'il y a derrière, qui ne sert pas nos intérêts, mais qui sert l'intérêt de celui qui est en face, ça ne vaut rien. Et le miracle de l'évangile, c'est de ne pas chercher à transformer nos vies de l'extérieur, par ce que l'on fait, par ce que la manière dont on fait les choses, mais de transformer l'extérieur par l'intérieur. Que ce que nous faisons, que ce que nous disons, que la démarche que nous avons soit transformée par la manière dont nous comprenons, dont nous creusons l'évangile et nous vivons le miracle de l'évangile, le miracle de Dieu. Et nous vivons la vie de Dieu. Être chrétien, c'est être témoin et c'est être un messager. Comment? Parce que nos vies sont attachées à ce qui est vrai. Dieu nous parle, Dieu nous dit des choses, Dieu nous fait connaître par sa parole la vérité et nous disons la vérité et nous parlons selon la vérité. Donc c'est donc intéressant de se demander à quoi sont attachées nos vies, à quoi sont attachés nos cœurs, selon quelle peur, selon quelle crainte est-ce que je vis? Parce que quand on réfléchit là-dessus, on réfléchit déjà sur là où on est en défaut par rapport à Dieu. Mais on réfléchit aussi sur ces autres manières selon lesquelles, si je fais fi de ça, je réalise quelle est la vérité. Je comprends vers quoi je dois me diriger. Je sais vers où je peux aller. Donc faire ce qui est juste, c'est faire preuve de courage, c'est faire preuve de détermination et c'est faire preuve de confiance en Dieu. Courage, détermination, et confiance en Dieu. Et à aucun moment, il n'y a ce que je pense être juste qui rentre en jeu. Il y a ce que Dieu pense être juste. D'accord? Il y a ce que Dieu considère être juste et la manière dont il nous donne de vivre la vérité. Et je le répète encore, parce que je perçois qu'il peut y avoir aussi les extrêmes, dire tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ça, mais sans amour, ça ne vaut rien. Sans le fait de mettre ses intérêts de côté pour servir les intérêts de l'autre, ça ne vaut rien. Alors c'est un cheminement, et c'est une réflexion que je vous soumets. Mais personnellement, j'ai été ébranlé par une fille de 12-13 ans. J'ai été ébranlé par une fille de 12-13 ans. Et ce qui a été ébranlé dans ma vie, c'est pas ce que je considère être, c'est pas la manière, c'est pas tous les enseignements que je pourrais donner, c'est la manière dont je m'attache à me servir moi-même des fois, à faire passer mes intérêts avant ceux des autres, à cacher la vérité alors qu'on sait que ça peut être juste, et à ne pas laisser Dieu faire son travail et faire son œuvre dans nos vies. Amen. Seigneur, je sais, Seigneur, que c'est pas simple d'entendre parler de la vérité. C'est pas évident, Seigneur, de recevoir une parole de vérité, de savoir ce qu'il conviendrait de faire et de peut-être de manquer de courage pour le faire. C'est pas simple, c'est pas évident. Mais là où notre regard se pose, c'est là aussi où on se dirige. Et Seigneur, nous voulons poser notre regard sur la force qui est en toi, sur la grâce qui est en toi, sur l'amour qui est en toi, celui par lequel tu peux porter nos vies, et pas sur la manière dont nous voulons nous défendre, dont nous voulons, Seigneur, nous abriter nous-mêmes, nous cacher dans un coin, dans un buisson, Seigneur, mais vivre à la lumière de ta parole, la lumière de ce qui est vrai, de ce qui est juste. Il ne s'agit pas de faire une révolution autour de nous, mais de se laisser porter, Seigneur, par ce qui est vrai. Seigneur, parfois on peut, et même souvent, Seigneur, on vit l'évangile par rapport à ce qui nous semble sage. On fait les choses qui nous semblent être intelligentes, mesurées. Et toi, Seigneur, tu demandes, Seigneur, à ce que ce soit par des bouches, des paroles, des personnes qui sont comme folles aux yeux du monde, que, Seigneur, nous pouvons être sages à tes yeux. La pensée selon ce monde, la sagesse selon ce monde est une folie devant toi. Parce que, Seigneur, elle profère le mensonge et elle se réjouit du mensonge. Seigneur, nous voulons nous réjouir de la vérité. Réjouir de ce qui fait le plaisir de ton cœur, Seigneur. Et si nos vies doivent peut-être, je ne sais pas, si nos vies, Seigneur, dans nos pensées, risquent d'être mises à rude épreuve, donne-nous, Seigneur, de regarder, Seigneur, à la vérité, Seigneur, qui a plus d'importance que nos propres vies. La vérité selon laquelle, Seigneur, même si les gens veulent nous amener à rejeter Christ, Seigneur, nous serons à même de dire, mais moi je crois. Moi je sais en qui j'ai cru. Pas dans un esprit revanchard, pas dans une pensée malveillante, mais avec l'amour, Seigneur, que tu donnes, avec, Seigneur, le fait, Seigneur, que nous ne cherchons pas à sauver nos propres vies, parce que nous savons que nos vies sont sauvées par toi. Et nous te remercions, Seigneur, de ça. Te remercions de l'espoir que tu donnes à nos vies, à nos cœurs, qui va au-delà de la mort, au-delà la chose que nous pourrions craindre le plus. C'est pas facile peut-être d'entendre ces paroles, Seigneur, mais ça vaut le coup, Seigneur, d'en parler. Ça vaut le coup, Seigneur, de savoir ce que tu en penses, de savoir ce que tu dis et de savoir mettre les priorités dans nos vies, surtout dans ces périodes de vacances où peut-être même c'est un peu plus calme dans différents domaines, mais où c'est aussi l'occasion de réfléchir et de penser à la manière dont nous gérons nos vies et dont nous avançons avec toi. Nous voulons être toujours plus surpris, Seigneur, par ce que tu fais, Seigneur. Toujours plus, Seigneur, réjouis, Seigneur, de savoir que nous ne nous laissons pas accuser par quoi que ce soit, mais que la vérité, Seigneur, nous libère. La vérité, Seigneur, nous donne de recevoir la paix qui vient d'en haut, et pas l'accusation, Seigneur, qui pourrait, Seigneur, dans nos cœurs, mettre une pointe d'ombre dans le tableau. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu accomplis dans la vie de chacun d'entre nous, que personne ne reçoive vraiment, Seigneur, de paroles d'accusation dans ce qui a été donné, mais que vraiment, Seigneur, tu travailles, Seigneur, nos cœurs pour être juste et vrai devant toi. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ce que tu accomplis. Et merci de faire de nous des témoins, des lumières dans la ténèbre, de faire que notre lampe brille dans les ténèbres, là où, Seigneur, ça peut déranger des fois. Merci, Seigneur, de faire que nos lampes brillent dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Amen.